Ce que je voudrais vous expliquer aujourd'hui, c'est que un déconfinement extérieur ne servira à rien si vous ne travaillez pas en même temps à un déconfinement intérieur, à un déconditionnement et à une sortie de stress post-traumatique. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle conversation du lundi numéro 36. Nous sommes le lundi 4 mai 2020 et dans plusieurs pays, on commence à parler de déconfinement et j'avais envie de vous partager un certain nombre de réflexions à propos de ce fameux déconfinement et je voudrais tout de suite vous dire l'essentiel de mon propos aujourd'hui en une phrase. Et cette phrase résume ce que je vais vous dire dans les prochaines minutes. C'est que il n'y aura pas de déconfinement extérieur si vous n'êtes pas capable de réaliser un déconfinement intérieur. C'est-à-dire qu'en fait, on aura beau vous donner progressivement la permission de reprendre votre vie comme avant, revenir à la normale, et de nouveau, ça dépend comment vous écrivez la normale. Moi, je l'écrirais plutôt avec un L apostrophe, comme vous le savez. Mais on aura beau vous donner la permission de recommencer à vivre comme avant, entre guillemets. Quelque chose s'est passé sur le plan intérieur, sur le plan psychologique, sur le plan émotionnel, sur le plan spirituel, qui fait que si vous n'êtes pas conscient de la nécessité d'œuvrer à votre déconfinement intérieur, psychologique, eh bien, vous serez encore plus dans une illusion de retour à la normale ou de retour à une certaine forme de liberté que vous ne l'étiez auparavant. Donc, ce sera ça le propos de cette conversation du lundi de ce 4 mai 2020. Je vous rappelle que lorsque j'ai lancé dans les temps, là, qui vient de dégeler, donc vous voyez encore un peu de neige, mais vous vous souvenez que les toutes premières conversations qui dataient de juillet-août 2019, je les avais faites en étant dans mon étang. Et donc, enfin, après 6 mois de neige, je vois le bout du tunnel. Et je vous avais parlé de mon intention de vous entretenir pendant toute l'année de cette notion de conditionnement. Je n'imaginais pas un seul instant que nous allions faire face ensemble à cette situation de pseudo-pandémie de coronavirus et que cette pseudo-pandémie serait l'occasion de faire la démonstration éclatante des mécanismes de conditionnement dont nous faisons l'objet, bien malgré nous, de la part des médias et de la part des dirigeants. Donc finalement, sans le savoir, j'ai pas mal préparé le terrain de ce dont nous avons besoin aujourd'hui. Donc si vous avez encore un peu de temps, parce que vous êtes encore peut-être un peu confiné, ben, je vous inviterai à aller écouter à nouveau certaines des vidéos que vous n'auriez pas entendues dans le début de ces épisodes, puisque ici nous en sommes à la conversation numéro 36, ça veut dire qu'il y a 35 numéros qui ont précédé cette conversation. Bien. Donc, à mon avis, le déconfinement intérieur va être infiniment plus difficile à réaliser que le déconfinement extérieur. Et quand je parle de déconfinement intérieur, je parle de tout ce que nous avons subi, de tout ce que vous avez subi au niveau psychologique, au niveau relationnel, au niveau émotionnel, au niveau spirituel, mais aussi dans le rapport que vous entretenez depuis quelques semaines avec votre propre corps, avec votre propre immunité. La confiance que peut-être vous avez perdue dans votre capacité ou dans la capacité de votre corps à gérer les situations qui se présentent à lui. Et vous entendez que je choisis soigneusement mon vocabulaire. Je ne suis pas en train de dire la capacité de votre corps à se défendre, parce que là, on serait encore dans une logique de guerre, alors que pour moi, pendant toute cette période de confinement, je ne me suis jamais senti en situation de guerre et à devoir me protéger et encore moins à devoir me défendre, mais plutôt faire confiance dans ma capacité, dans la capacité qu'a mon corps à traiter les informations qui viennent de l'extérieur. Je pense que c'est vraiment comme ça qu'il faut voir les choses. Quand on parle de virus, le virus, et encore beaucoup plus qu'une bactérie ou qu'un champignon, etc., le virus, c'est une information, c'est de l'ARN. Et de l'ARN, c'est de l'information génétique. Donc en fait, cette pandémie ou cette pseudo-pandémie, ce qu'on nous a fait croire comme étant un danger mortel qui allait provoquer des dizaines de millions de morts sur cette planète, a changé fondamentalement pour un certain nombre d'entre nous le rapport et la confiance que nous pouvions avoir dans notre corps. Et donc, nous allons devoir, si vous voulez réussir votre déconfinement, vous allez devoir envisager les choses comme si vous alliez suivre une cure de désintoxication. Et je suis vraiment sérieux quand je vous dis ça. Je ne choisis pas mes mots au hasard. Pour moi, c'est véritablement une intoxication que nous avons subie. En tout cas, ceux qui parmi vous, et c'est pour ça que je ne me mets pas dans le lot, ceux qui parmi vous ont été accrochés aux médias dominants, ont été accrochés à toutes les déclarations des pseudo-experts payés très grassement par les compagnies pharmaceutiques et payés pour vous faire peur et payés pour vous vendre la seule solution possible pour sortir de ce cauchemar qui serait un hypothétique vaccin qu'on nous promet pour dans 12 à 18 mois. Enfin, maintenant, ça va faire peut-être 6 à 12 mois. Donc, si vous avez été contaminé par le message des médias mainstream qui ne savent plus comment s'y prendre pour faire taire les lanceurs d'alerte, ils ont beau engager tous les fact-checkers, les debunkers, les décrypteurs, les décodeurs de ce monde, ils ne font finalement que répéter le narratif que vous avez déjà entendu dans les journaux télévisés, dans les nombreuses émissions où on invitait sur les plateaux uniquement des médecins et des spécialistes qui étaient payés grassement par les compagnies pharmaceutiques et qui ne faisaient jamais la déclaration de leur conflit d'intérêts alors que la loi les y oblige. Donc finalement, les gens qui sont en train de faire de la vérification de faits et la chasse aux conspirationnistes, la chasse à la désinformation, ne font que s'enfoncer dans leurs mensonges. Et cette fois-ci, contrairement à 2009, ce que je fais, c'est que j'enregistre des centaines d'extraits vidéo pour pouvoir le refoutre sur le nez dans un an ou dans deux ans en disant « Mais regardez ce que vous avez dit, regardez ce que nous avons dit, qui avait raison ?» Parce que vous voyez, nous les lanceurs d'alerte, on n'a pas grand-chose à gagner à faire ce que nous faisons. Et un journaliste qui m'avait déjà descendu il y a 15 jours, un journaliste de Radio-Canada, m'a écrit un courriel en me demandant une entrevue téléphonique ou une entrevue Skype, en me disant qu'il s'intéressait beaucoup aux motivations qui étaient les miennes à parler en public. Vous pensez bien que je lui ai... Au départ, je ne voulais pas lui répondre, puis finalement, je lui ai répondu en lui disant que j'étais tout à fait d'accord de répondre à ses questions, mais à une seule condition, c'est que ça se fasse en direct et sans censure. Évidemment, je n'ai pas eu suite, puisque en fait, la stratégie, c'était de me poser des questions et puis d'aller extraire quelques phrases pour m'enfoncer encore davantage. Donc, on laisse passer cela. Mais donc, je reviens à cette notion de cure de désintoxication cognitive, c'est-à-dire à la nécessité de remettre en question les croyances qu'on vous a imprimées dans le cerveau ces 8 dernières semaines ou ces 12 dernières semaines. Quelles sont les croyances? Posez-vous la question par rapport à qui vous étiez le 25 décembre ou le 1er janvier ou le 12 janvier. Quelles étaient vos croyances? Quelles étaient vos conceptions de la vie? Quelles étaient vos conceptions des relations? Quelles étaient vos conceptions des rapports humains, des contacts humains? Quelle était votre conception du corps humain, de la maladie, du danger que vous couriez ou pas? Ce sont des questions que je vous invite sérieusement à vous poser et de comparer ce qui était l'ensemble des conceptions que vous aviez entre le 25 décembre et le 12 janvier et ce que sont aujourd'hui vos croyances, vos conceptions, votre vision du monde, votre vision des autres. Moi, ça me frappe que même lorsque je vais à mon petit magasin biologique de mon village, où j'imaginais que j'aurais des gens plus éveillés, qui seraient moins dupes. Quand je vois que je m'approche de moins de 2 mètres de la personne qui me précède, cette personne sursaute comme si j'étais radioactif, comme si j'étais pestiféré, comme si j'étais porteur de puces qui sont en train de sauter sur son visage ou dans son nez. Enfin, je ne sais pas vraiment ce qui se passe, mais c'est installé entre nous, les êtres humains, une méfiance dont je n'ai jamais été témoin de toute ma vie. Est-ce que vous faites partie de ces personnes qui commencent à se méfier des uns et des autres? Ben, si c'est le cas, c'est que vous avez été intoxiqué. C'est qu'on vous a fait croire que quelqu'un qui est en face de vous, en ayant la bouche fermée, pourrait vous contaminer. Vous savez, pour vous contaminer, il faudrait vous éternuer à la figure et il faudrait que les postillons arrivent jusqu'à vous. Quelles sont toutes les croyances qu'on a mises dans votre tête en égrenant jour après jour, heure après heure, le nombre de morts que l'on comptabilisait en relation avec le coronavirus? J'ai répondu à une interview il y a quelque temps, qui va bientôt paraître sur YouTube, et je disais à la personne qui m'interviewait, qui me posait les questions sur les chiffres, et sur cette façon de dégrainer les chiffres tous les jours, je disais, mais vous savez, en fait, comme nous n'avons pas plus de morts globalement pour le mois de mars et le mois d'avril 2020 par rapport au nombre de morts de mars et avril 2019, qu'est-ce qui se serait passé si, il y a un an de cela, votre ministre de la Santé vous avait parlé tous les jours au journal de 20h, ou juste avant 20h, ou je ne sais pas quand en tout cas, si les médias vous avaient tous parlé tous les jours en vous disant « Voilà, en France, aujourd'hui, 160 personnes sont mortes de la grippe saisonnière. » Ça, je vous parle des chiffres de 2019. Là. Et si tous les jours, on vous avait dit ah, aujourd'hui, 165 morts, 165 personnes sont mortes de la grippe saisonnière. Et puis le lendemain, on vous aurait dit, ah, aujourd'hui, 158 personnes sont mortes de la grippe saisonnière. Eh bien, ça aurait généré exactement le même niveau de stress. Et pourtant, ce sont les mêmes chiffres que cette année. Je pense qu'il faudrait quand même que vous commenciez à réfléchir sur le fait qu'on vous a fait peur avec quelque chose qui était totalement normal. On vient d'apprendre que dans les résidences pour personnes âgées, où résident en moyenne 750 000 personnes en France, de nouveau je vous donne les chiffres de la France, mais je pourrais vous donner aussi les chiffres du Québec, je ne connais pas les chiffres de la Belgique ou de la Suisse. En France, il y a 750 000 personnes âgées qui séjournent dans les résidences pour personnes âgées. Et en moyenne, chaque année, 150 000 d'entre elles meurent de plein de pathologies différentes ou elles meurent tout simplement parce qu'elles sont arrivées au bout de leur vie. 150 000 personnes sur 12 mois. Vous faites une division, moi je l'ai faite pour vous, ça fait 12 500 personnes par mois meurent dans les résidences pour personnes âgées. Bon, et en plus, ça c'est une moyenne parce qu'en hiver, on sait qu'il y a plus de personnes. Donc en hiver, il y a probablement 15 000 personnes qui meurent chaque mois dans les résidences pour personnes âgées. Alors si vous mettez en perspective ces 15 000 personnes qui de toute façon seraient mortes en février, en mars, en avril, et que vous les comparez aux chiffres catastrophistes du nombre de morts liés à Covid-19. Est-ce que vous voyez où je veux en venir? Il n'y a pas plus de morts que l'année dernière. Il n'y a pas plus de morts qu'en 2018, grosso modo. Il n'y a pas plus de morts qu'en 2017, etc., etc. Mais entre-temps, le fait d'avoir entendu des chiffres qui ne voulaient rien dire pour vous, parce qu'en fait, si on vous avait dit aujourd'hui, à cause du Covid-19, 155 personnes sont mortes, on vous rappelle que habituellement, la moyenne est de 166 personnes pendant la période de l'hiver. Vous auriez dit, so what? Puis après, pourquoi est-ce qu'on nous parle de ça? Pourquoi est-ce qu'on nous emmerde avec ça si le nombre de morts qu'on nous annonce peut être comparé au nombre de morts de l'année dernière ou d'il y a 2 ans ou d'il y a 3 ans? Vous voyez la responsabilité et je dirais même la culpabilité et le jeu extrêmement pervers qu'ont joué les médias et les dirigeants dans cette affaire pour créer une panique monumentale dans la population avec des chiffres par rapport auxquels vous n'aviez aucun point de repère pour évaluer si c'était grave ou si ce n'était pas grave. Mais entre-temps, cette manœuvre d'intoxication médiatique a fait son travail à l'intérieur de vous. Et donc aujourd'hui, je vous invite vraiment à reconnaître que vous avez été intoxiqué, que vous avez été traumatisé. D'autant plus que ce traumatisme n'a pas seulement été un traumatisme cognitif, un traumatisme informationnel, ça a été aussi un traumatisme lié au fait qu'on vous a empêché de bouger. Or, j'ai vraiment eu la chance d'apprendre beaucoup de choses avec Cyrine Benmamou, qui, à mon sens, est une femme très experte dans le domaine de la croissance post-traumatique. Elle est docteure en neurosciences. Elle s'est spécialisée dans l'étude du stress post-traumatique et aussi dans les thérapies, surtout dans les démarches qui permettent de sortir de stress traumatique. Et c'est grâce à elle que, d'ailleurs, je vous recommande vraiment d'aller écouter ses vidéos gratuites. Elle a 4 vidéos gratuites qui expliquent très très bien la différence entre le trauma et le traumatisme. Je vous en fais un résumé en quelques secondes. D'après les travaux sur le traumatisme, un trauma, c'est un choc. Donc, vous faites un accident de voiture, ça c'est un choc, d'accord? C'est un trauma. Qu'est-ce qui fait qu'un trauma se transforme en traumatisme? C'est le fait que vous n'allez pas être capable dans les minutes, dans les heures, dans les jours qui suivent, d'évacuer le stress et les émotions qui ont été associées à ce choc. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça veut dire que tous les traumas ne provoquent pas nécessairement un traumatisme. Mais une fois que le trauma s'est transformé en traumatisme, là, il va falloir faire quelque chose pour se défaire, pour, je dirais, se libérer de ce stress post-traumatique ou de ce stress traumatique. Et ce que j'ai compris aussi, ce que j'ai appris de ma fréquentation de Cyrine Benmamou, c'est que la meilleure façon, et écoutez-moi bien parce que ça va vous donner vraiment des conseils qui pourront, à mon avis, vous être très utiles. La meilleure façon de sortir d'un traumatisme, ce n'est pas par une démarche de psychothérapie, ce n'est pas par une démarche de méditation, ce n'est pas par une démarche, je dirais, qui fait intervenir le mental ou le verbe. C'est par une démarche qui va impliquer le corps et qui va impliquer les émotions. Donc, ce qu'on appelle habituellement une démarche somato-émotionnelle. Et la façon la plus simple, je dirais, de... Bon, ben là, je simplifie énormément le travail de Cyrine Benmamou, mais la façon la plus simple de sortir de stress post-traumatique, c'est de se remettre en mouvement, mais se remettre en mouvement, c'est-à-dire de se mettre dans l'action, mais aussi de faire bouger son corps, tout simplement. Vous avez été enfermé pendant 8 semaines ou 9 semaines, je ne sais pas, je n'ai pas fait le compte, et ça dépend des pays dans lesquels vous vivez. Vous avez été enfermé donc, et empêché, donc vous avez été figé pendant plusieurs semaines, et le figement, c'est un facteur aggravant du stress traumatique. Et donc, ce qu'il va falloir faire maintenant, c'est de remettre votre corps en mouvement, de le secouer dans tous les sens, etc. Mais bon, ça ne se fait pas n'importe comment, et c'est là où je vous renvoie vers le site de Cyrine. Mais c'est ce que vous allez devoir faire. Et donc, c'est pour ça que je vous ai proposé pour le jour de mon anniversaire, qui était donc le samedi 2 mai 2020, je vous ai proposé de poser une première action. Et j'étais, quand j'ai posté ma vidéo, je m'étais dit, bon, ok, je vais recevoir peut-être 100 ou 200 vidéos. Donc, en fait, si vous n'avez pas vu cette vidéo, j'invitais simplement ceux qui m'entendaient à enregistrer une petite vidéo de 15, 30 ou 60 secondes maximum pour dire ce que vous ne vouliez pas, c'est-à-dire vous adresser à vos dirigeants et dire « voilà ce que je ne veux pas, voilà ce que je refuse, voilà ce que je ne veux plus ». Et je m'étais dit « c'est une bonne façon de recommencer progressivement cette cure de désintoxication et ce travail de sortie du traumatisme, c'est de vous inviter à poser un acte ». En 12 heures, j'ai reçu 1200 vidéos. Par courriel, vous imaginez, 1200 vidéos. Donc j'ai dû arrêter l'opération en catastrophe parce que j'avais promis de prendre les vidéos et de les monter pour en faire un film que nous allions distribuer et diffuser de façon virale pour indiquer au reste de la population que de plus en plus d'êtres humains décident de reprendre leur destinée en main et décident de reprendre leur souveraineté. Et quand j'ai vu le nombre de vidéos reçues en 12 heures, je me suis dit, ça c'est vraiment un indicateur du fait que nous avons tous et toutes besoin de retourner dans l'action et le plus vite possible. Alors, je dis « nous », mais en fait, moi, je ne suis jamais sorti de l'action parce qu'à partir du moment où j'ai vu cette pseudo-pandémie pointer le bout de son nez, j'ai tout lâché au niveau de mon activité professionnelle. Et heureusement que mon équipe s'occupe de la partie commerciale de mon entreprise parce que moi, je me suis consacré depuis début février, donc ça fait maintenant 3 mois, je me suis consacré à temps plein à essayer de discerner quelles étaient les informations vraies et les informations fausses, quels étaient les mécanismes de propagande qui étaient là pour nous conditionner à finalement accepter une vaccination qui s'en vient comme étant la solution miracle, vaccination qui sera assortie d'un traçage numérique. Alors, je n'ai pas les détails, je ne sais pas si le traçage numérique se fera via une application sur votre téléphone portable, si ça se passera via un bracelet comme on le met aux prisonniers des prisons lorsqu'ils sont en permission pour le week-end, si ça se fera par l'injection d'une puce. Je dirais que là, les détails ont peu d'importance. Mais ce qui est important pour moi, ce qui était important pour moi, c'était effectivement de rester dans l'action pour ne pas sombrer moi-même dans le traumatisme. Et donc, je peux vous dire que 3 mois plus tard, je n'ai pas été touché par ce stress traumatique. D'abord, parce que je n'écoute jamais les médias, je n'ai plus de télévision depuis 1982. Vous pensez bien que ça faisait très très longtemps que j'avais compris que les médias nous mentent en permanence et en plus nous abîment au niveau de notre intégrité psychologique et émotionnelle. Vous savez, les gens qui prennent leur petit déjeuner en écoutant les nouvelles absolument déprimantes du monde, Je ne sais pas comment ils commencent leur journée, mais en tout cas, moi, j'ai vraiment pas envie de commencer ma journée de cette façon-là. Mais vous, vous avez probablement besoin de repasser à l'action. Et donc, c'est là où, évidemment, je ne peux plus recevoir d'autres vidéos parce qu'il y en a trop, je suis complètement débordé. Mais ceux qui m'ont envoyé leurs vidéos et ceux qui ne m'ont pas envoyé leurs vidéos, mettez-les sur les réseaux sociaux, publiez-les. Je voudrais que nous soyons des dizaines de milliers, des centaines de milliers à dire « Je ne veux pas ceci. Je ne veux pas qu'on m'interdise de prendre ma grand-mère dans mes bras. Je ne veux pas être obligé d'interdire à mes enfants de se rapprocher de ceux et de celles qu'ils aiment, etc., etc. » Soyons des centaines de milliers à dire à nos gouvernants « Non, ça suffit. Vous avez perdu la partie, vous avez essayé de nous manipuler, vous avez essayé de nous paralyser par la peur, eh bien, nous reprenons notre vie en main, nous reprenons le pouvoir sur notre vie. » Ça, c'est la première action que je vous proposais, mais il y a encore bien d'autres actions qui s'en viennent dans les prochains jours. Et comme je l'ai dit dans la vidéo du 2 mai, je vais faire appel à votre créativité pour qu'ensemble, nous trouvions les meilleures façons non violentes de sortir de notre confinement intérieur, psychologique, émotionnel. Vous comprenez les enjeux? Donc, ce n'est même pas un enjeu de déconfinement extérieur. Si vous sortez grâce au déconfinement, mais que vous restez terrorisé à l'idée que vous pourriez être contaminé par quelqu'un qui est porteur sain, si vous êtes terrorisé à l'idée que quelqu'un vous a frôlé à moins de 1 mètre en étant dans un magasin, ça veut dire que rien n'a changé, ça veut dire que le traumatisme est encore là, ça veut dire que le confinement est encore là, mais il est encore plus pervers parce que ce confinement, cette fois-ci, il est dans votre tête et il n'est nulle part ailleurs. Donc si vous sortez en ayant les mêmes croyances, en ayant les mêmes peurs, en ayant la même perte de confiance dans la capacité de votre corps à traiter des informations, eh bien, vous êtes foutu. Autant rester chez vous à ce moment-là. Vous voyez ce que je veux dire? Bien. Alors, j'aimerais revenir sur l'exercice que je vous avais invité de faire, puisque je vous invite à continuer cet exercice que je vous avais proposé dans la vidéo du 2 mai, c'est-à-dire dire ce que vous ne voulez plus. Et quelques personnes, pas nombreuses, mais quelques personnes m'ont fait la remarque en disant « Oui, mais enfin, Jean-Jacques, dire ce qu'on ne veut plus, dire ce qu'on ne veut pas, c'est quand même négatif. Moi, je préférerais dire ce que je veux. » Alors, là, je voudrais quand même faire quelques précisions parce que je pense que là, nous sommes tous et toutes victimes de quelques dizaines d'années d'enseignement erroné venant du New Age et du développement personnel, auquel je ne me suis jamais vraiment identifié, le développement personnel. Je suis plus dans une démarche jungienne, une démarche d'individuation, une démarche qui intègre la lumière et l'ombre pour rendre les individus, pour permettre aux individus d'être les plus complets possibles. Donc, je crois beaucoup plus à la plénitude de l'ombre et de la lumière plutôt que d'essayer d'être les êtres les plus lumineux possibles. Mais dans les enseignements du développement personnel depuis quelques dizaines d'années, on nous a fait croire, et en tout cas il y a eu beaucoup de mauvais enseignants qui ont fait des raccourcis malheureux en vous disant que dès qu'on prononçait une négation, eh bien c'était négatif et que c'était inefficace. Et entre autres, c'est quelque chose qui est parti de la PNL. Et à l'origine, la PNL n'a jamais dit les choses de façon aussi caricaturale, vous voyez. Mais le problème, c'est qu'après, quand on vous enseigne les choses sans les avoir comprises, c'est là où on a une déviation du message. Parce qu'effectivement, si je vous dis « ne pensez surtout pas à un éléphant rose à pois jaune », ben c'est clair que l'image mentale vient de se mettre à l'intérieur de votre esprit. ce qui fait dire aux gens, ah ben tu vois que ça ne sert à rien de dire une négation, puisque quand on dit une négation, le cerveau l'entend quand même. Mais oui, évidemment, je suis d'accord avec ça. Mais là, on ne parle pas de ça. On ne parle pas de placer une image dans le cerveau des personnes. On parle de poser ses limites. Quand je dis « je ne veux pas être obligé de porter un masque », là, je pose un acte, je pose une limite. Je dis à mon interlocuteur, je dis à mon adversaire, à partir de cette limite, c'est mon territoire et tu n'entres pas sur mon territoire. Vous voyez la différence ? Donc, et ça, c'est quelque chose qui fait partie d'un principe de vie. Donc, en fait, dire non, être capable de dire non, être capable, je me redresse du coup, être capable de poser ses limites, c'est la meilleure façon dont nous pouvons prouver que nous prenons soin de notre intégrité sur le plan physique, sur le plan de notre autonomie, sur le plan de notre liberté. Quelqu'un qui n'est pas capable de dire non, et ça, je pense que je peux faire appel à votre expérience. Si vous n'êtes pas capable de dire non, vous vous rendez compte que vous vous faites exploiter, que vous ne respectez pas la vie en vous. Donc, dire non, c'est une action, c'est un acte éminemment positif et éminemment au service de l'élan vital. Donc, arrêtez de me servir ces croyances stupides qui proviennent d'un enseignement erroné, qui est de dire « Ah, mais non, mais il ne faut pas dire ce qu'on ne veut pas. » Si quelqu'un essaye de vous abuser sexuellement ou violer sexuellement, vous allez lui dire les choses de façon positive et en lui envoyant de l'amour et de la lumière en plus? Ou est-ce que simplement vous allez lui dire « Non, tu ne touches pas à mon corps. » Vous voyez ce que je veux dire? Et en disant « Non, tu ne me toucheras pas. Non, tu ne viendras pas dans mon lit. Non, tu ne me déshabilleras pas. » Vous êtes en train d'être au service de votre intégrité et de votre vie. Ce qui m'amène aussi à une deuxième précision par rapport à ma vidéo, ma conversation du lundi numéro 35, où je vous avais parlé de non-violence. Et là aussi, il y a beaucoup de confusion parce que vous confondez en permanence la non-violence avec la mollesse, avec le fait d'accepter tout. Ben non, je viens de vous dire, il est vraiment important qu'on pose ses limites, mais de façon non-violente. Et justement, poser sa limite, c'est la meilleure façon de rester dans une attitude non-violente. Pour terminer, je voudrais revenir encore à cet exercice que je vous invite vraiment à faire. Donc, je vous invite vraiment à enregistrer une vidéo de 15, 30 ou 60 secondes maximum et de la publier avec peut-être les vidéos de 2, 3, 4, 5 autres amis. Donc, ça fera une petite vidéo de 4-5 minutes en tout avec 6-7 témoignages où vous dites ce que vous ne voulez pas, ce que vous refusez, ce que vous ne voulez plus. Donc, pour tous les détails, allez écouter ma vidéo du 2 mai. Mais cet exercice de dire ce que vous ne voulez plus, ça va être la base, ça va être le fondement, ça va être la fondation, ça va être le roc sur lequel vous allez rebâtir, reconstruire votre souveraineté individuelle. Puisqu'en fait, c'est ça pour moi le véritable enjeu de cette pseudo-pandémie de coronavirus. Ce n'est même pas un enjeu sanitaire. Écoutez, si vous êtes en bonne santé, si vous n'avez pas un terrain inflammatoire à cause des nombreux médicaments que vous prenez, à cause du surpoids, à cause de la toxicité de ce que vous mangez, de ce que vous buvez, etc., ben je dirais qu'il n'y en a aucun d'enjeu sanitaire. Par contre, nous sommes tous, nous les bien portants et nous ceux qui sont moins bien portants, nous sommes tous confrontés à un enjeu qui est l'enjeu de notre souveraineté. J'ai eu l'occasion de développer cela dans mon émission chez Thierry Casanova mardi dernier. Et Ça, c'est un devoir sacré auquel nous allons devoir tous et toutes nous atteler dès maintenant. Parce que si nous ne le faisons pas dès maintenant, nous ne ferons aucun obstacle au déploiement de ce que j'ai nommé mardi dernier une dictature 3.0. Donc c'est maintenant que vous devez poser des actes. C'est maintenant que vous devez faire savoir que vous refusez le dépistage, que vous refusez le port du masque, que vous refusez de respecter encore la distanciation sociale, que vous refusez toutes ces contraintes, que vous refusez la perspective d'une vaccination, que vous refusez le fait d'être tracé numériquement. Si ce n'est pas maintenant que vous faites cela, en énorme nombre, c'est pas très français comme phrase, mais enfin, c'est pas grave, eh bien, il ne faudra pas nous plaindre, il ne faudra pas vous plaindre si dans quelques mois, le plan qui est à l'œuvre depuis plusieurs années de la part de l'élite mondiale, de la part des dirigeants de ce monde, eh bien, il ne faudra pas vous plaindre que ce plan se réalise à ce moment-là. Et à ce moment-là, il sera trop tard. Donc, si je reviens tout au début, je vous disais que le déconfinement le plus difficile ne serait pas le déconfinement extérieur, mais serait le déconfinement intérieur. Et donc pour ça, il va falloir que vous travailliez à votre déconfinement intérieur, il va falloir que vous travailliez à la déconstruction de toutes les croyances que vous avez acquises pendant ces 3 derniers mois. Et donc c'est là où je vous invite vraiment à faire un travail d'introspection pour voir c'était quoi mes croyances jusque à la nouvelle année 2020, c'est quoi mes croyances aujourd'hui. Il va falloir que vous travailliez à votre déconditionnement parce que vous avez vraiment subi un conditionnement, vous avez subi un lavage de cerveau comme ça se faisait dans les pires années des expériences en psychiatrie. Vous avez subi un lavage de cerveau profond qui fait que vous vous méfiez de tout le monde, qui fait que vous vous méfiez, vous n'avez même plus confiance dans votre propre capacité. Il va falloir travailler à votre désintoxication mentale, émotionnelle, spirituelle, et il va falloir que vous travailliez à la remise en mouvement de votre vie. Et donc, je vous donne rendez-vous très rapidement pour d'autres vidéos, qui seront d'autres vidéos d'action. Vous voyez, j'ai plusieurs playlists pour l'instant. J'ai la playlist des conversations du lundi, j'ai la playlist des Corona Gates, j'ai la playlist des actions à mettre en œuvre. Je suis en retard par rapport à la playlist des chiffres et des faits, et pourtant, c'est parce que je croule sous les informations. En fait, ça va trop vite. Et donc, au fur et à mesure que j'avance dans des dossiers, il y a d'autres informations qui se rajoutent. Donc, je me dis, mais non, c'est pas encore le temps. Donc, désolé, il n'y a pas encore de vidéo dans la playlist des chiffres et des faits, mais ça viendra en son temps. Voilà, j'espère que vous avez apprécié les réflexions que je vous partageais. J'espère surtout que ça va vous aider à vivre un véritable déconfinement parce que le déconfinement extérieur ne vous servira à rien si vous ne faites pas en même temps un travail au niveau intérieur. Et si ça vous aide, si vous pensez que ça peut aider d'autres personnes, eh bien je vous invite chaleureusement à partager cette vidéo largement, mais pas seulement à la partager. Comme vous le savez, j'ai quand même déjà 2 vidéos qui ont été supprimées par YouTube. Donc, c'est pour ça que je vous invite à cliquer sur le lien qui se trouve sous cette vidéo pour aller dans un dossier Dropbox pour télécharger cette vidéo que vous êtes en train d'entendre et pour la reposter vous-même sur vos chaînes YouTube, vos pages Facebook ou vos blogs. Il n'y a aucun droit d'auteur. Je donne toutes ces vidéos libres de droit. Donc, je vous autorise à les diffuser le plus largement possible, mais pas en utilisant le bouton « Partager », mais en le faisant plutôt de la manière dont je viens de vous le dire. Et puis, je vous invite toujours à rejoindre ma chaîne privée qui est entièrement gratuite, qui compte maintenant plus de 60 000 personnes. Et c'est sur cette chaîne privée que nous sommes en train de travailler progressivement à comment, ensemble, nous allons pouvoir réenchanter le monde. Donc, en fait, c'est ça la vocation de cette chaîne privée, c'est vous donner aussi des dossiers et des informations dont vous n'avez pas, auxquelles vous n'avez pas accès sur YouTube, mais c'est aussi le lieu où nous allons progressivement travailler au réenchantement de notre monde. Et je dirais qu'on a une super belle occasion avec cet arrêt qui nous a été imposé pendant plus de 2 mois, parce que ça va nous permettre peut-être de reprendre les choses d'une autre manière et justement ne pas retourner à la normale, mais de créer un autre monde qui soit plus respectueux des valeurs humaines, des valeurs écologiques et des valeurs spirituelles, en incluant et en n'oubliant surtout pas les valeurs du féminin sacré. Alors, je vous embrasse et je vous donne rendez-vous pour une prochaine conversation du lundi prochain, donc le 11 mai. À très bientôt.